Tous nos commentaires et nos nouvelles s'enchaînent aujourd'hui. Vous avez entendu Patrick Lagacé nous parler de l'affaire Facebook. Et Raphaël, aux États-Unis, évidemment, c'est parce qu'on cible ça de plus près, du fait que ces données personnelles sur les citoyens, des millions de citoyens, ont servi, semble-t-il, pour une utilisation douteuse lors de l'élection présidentielle de 2016.
Et là, pour tous les critiques du président Trump, c'est sûr que ça vient rajouter encore une espèce de couche de frustration parce qu'on se dit, ah, mais ça a tellement été serré, c'est peut-être ça qui a fait la différence. Comme ça a peut-être été la sortie de James Comey, l'ancien directeur du FBI, à quelques jours du vote, comme ça a pu être ceci, cela. Et là, t'as une nouvelle histoire qui sort et qui alimente cette espèce de machine à frustration-là, en fait, pour les critiques du président depuis l'élection de novembre 2016. Et là, effectivement, t'as, je dirais, une situation assez douteuse, mais dont on connaît encore assez peu de détails. Il va vraiment falloir attendre, et je dirais que les détails, on risque de les avoir, parce que le Congrès américain semble extrêmement intéressé à avoir des réponses, à savoir, de un, justement, qu'est-ce qui s'est produit exactement, dans quelle mesure, jusqu'à quel point est-ce que les droits privés de millions d'Américains ont été floués. Et à quel point est-ce que ces activités peut-être néfastes-là, en fait, se sont poursuivies au lendemain du vote? Donc, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et Patrick faisait allusion à quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui va être, je dirais, central dans le débat aux États-Unis là-dessus, soit la réglementation ou la non-réglementation de ces géants du web-là. Parce que Patrick en parlait, il utilisait l'expression « Far West ». Mais en termes de réglementation gouvernementale, c'est un petit peu ça, en fait, qu'on a aux États-Unis quand on parle de géants comme Facebook, parce qu'il y a très, très, très peu de réglementation pour des médias, parce que c'est des nouveaux médias, mais ce sont des médias qui sont très peu contrôlés quand tu les compares aux chaînes télévisées, aux radios, aux journaux, etc. Donc, ce qui est vraiment intéressant présentement, c'est que tu as le Parti démocrate qui, je dirais, de façon générale, est très favorable à Silicon Valley, encore une fois, de façon générale, parce qu'il y a une alliance culturelle implicite entre les deux. La Californie, la côte ouest américaine, incluant Silicon Valley, la grande région de San Francisco, c'est très démocrate. C'est plutôt à gauche culturellement. Donc, les démocrates n'ont pas l'habitude d'aller jouer dans les pattes de Silicon Valley. Mais le Parti démocrate, c'est aussi le parti de la réglementation gouvernementale, de l'intervention étatique, beaucoup plus que les républicains. Et donc, il y a beaucoup de gens présentement à Silicon Valley qui commencent vraiment à avoir peur que là, les républicains qui sont assez hostiles de façon générale à Silicon Valley et les démocrates qui, là, se disent « on n'a peut-être pas le choix d'aller réglementer cette industrie-là », commencent à débarquer avec des réglementations beaucoup plus sévères que ce qu'on a présentement.
Bon, on va voir la suite des choses. En tout cas, Zuckerberg va passer devant une commission britannique. En Europe, on est évidemment extrêmement inquiet. C'est pour ça qu'il a été convoqué. Maintenant, on va changer de registre un peu pour parler de la première dame des États-Unis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Mme Melania Trump, qui présidait aujourd'hui un sommet spécial sur
la cyber-intimidation.
Attendez. La quoi?
La cyber-intimidation. J'ai de la misère à le dire sans rire, Paul, pour des raisons assez évidentes.
Elle ne connaît personne qui fait de la cyber-intimidation.
Je veux dire, dans sa propre maison.
Genre à 5h30 sur Twitter le matin.
Tu veux dire à tous les matins.
Oui.
Écoute, évidemment, il y a quelque chose d'assez ridicule et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et Melania Trump, donc, qui présidait cette espèce de sommet-là, l'a même dit proactivement aujourd'hui, elle a dit au micro, je sais qu'il y en a qui doutent de ma crédibilité sur ce sujet-là. C'est probablement l'euphémisme de l'année. Le président, son propre époux, est un champion de la cyber-intimidation. Tu sais, on se parlait tantôt des raisons qui ont fait que Donald Trump a gagné. Ben, disons-le franchement, Paul, parmi ces raisons-là, il y a eu son utilisation de Twitter et son utilisation de Twitter, en bonne partie, c'est de la cyber-intimidation.
Et il n'a jamais mâché ses mots, son adversaire de l'élection présidentielle, Crooked Hillary.
Et ça, c'était après Lying Ted,
ben oui, mais
et Little Marco et Low Energy Jeb. Je veux dire, tous ses rivaux politiques, il les a ridiculisés.
Attends, un chef d'État étranger, Little Rocket Man.
Parmi d'autres, parce qu'il a aussi attaqué Angela Merkel et d'autres leaders étrangers. Donc, écoute, c'est carrément surréel, encore une fois.
Pauvre Madame Trump.
Pauvre elle. Parce qu'on sait que les premières dames, surtout, je te dirais, au courant des dernières décennies de l'histoire américaine, se sont souvent donné une espèce de mission sociale, de vocation.
Ouais.
Melania Trump aurait pu prendre n'importe quoi. Elle a choisi
la cyber-intimidation. Ben, c'est peut-être pour...
Penses-tu? Passer un message
à son mari.
Et tu penses que ça va fonctionner?
Peut-être. Finalement, aujourd'hui, 15e anniversaire. C'est incroyable comment le temps passe vite. Je me rappelle très bien du début de cette guerre américaine en Irak. Un anniversaire que peu d'Américains célèbrent. C'est George Bush, George W. Bush, président, qui, pas mal en réaction aux attentats du 11 septembre 2001 et son entourage, avait lancé l'assaut contre Saddam Hussein.
18 mois à peine après l'entrée en Afghanistan, on avait lancé la guerre en Irak. Et écoute, 15 ans plus tard, il y a des données qui sont absolument effarantes. On s'en parlait un petit peu avant d'entrer en onde. Et je tiens à le dire à tous nos auditeurs à quel point tu es absolument doué. Écoute, je t'ai demandé de façon approximative, selon toi, combien il y avait de soldats américains morts en 15 ans. Tu l'avais presque exactement. C'est près de 4 000. Près de 4 000 soldats américains morts, plus de 30 000 blessés. Et là, on parle seulement des soldats américains. On ne parle pas évidemment de tous les civils, de tous les Irakiens, parce qu'en fait, c'est pratiquement impossible d'avoir un estimé dont on peut vraiment avoir confiance. La seule chose qu'on peut vraiment dire avec confiance, c'est que le total au niveau des victimes civiles, évidemment, est immensément plus élevé que ce qu'on a eu du côté américain. Au niveau financier, c'est plus de 2 000 milliards américains qui vont avoir été injectés dans cette guerre-là, qui n'est toujours pas terminée, on le rappelle. Et qu'est-ce qu'on a eu en retour au niveau de la perception américaine, justement, 15 ans plus tard? Bien, il y a un sondage absolument fascinant qui a été fait au courant des derniers jours, qui a été diffusé cette semaine. Ça démontre notamment que c'est les deux tiers, en fait, exactement 67 % des Américains qui jugent 15 ans plus tard que la guerre en Irak n'a pas contribué à rendre les États-Unis plus en sécurité ou en fait à contribuer à rendre les États-Unis moins en sécurité qu'auparavant. Et ce qui est également, et je te laisse avec cette donnée-là qui pour moi est vraiment, vraiment fascinante, on a demandé aux Américains en 2018, est-ce que vous étiez pour l'intervention américaine lorsqu'elle a débuté en 2003? À peine 32 % a répondu oui. Donc, on demandait aux Américains, quand ça a commencé, est-ce que vous étiez pas au compte? À peine 32 % qui dit oui. Mais quand on remonte dans le temps et on regarde les archives, selon l'Institut de recherche Pew, très réputé, très réputable, en fait, à l'époque de l'invasion de l'Irak, c'était 72 % des Américains qui étaient pour. Ouais. Autrement dit, au fil des années, on a vu comment ça a viré. Mm-hmm. Il y en a qui ont soit oublié qu'ils étaient pour ou qui n'ont peut-être pas l'empressement d'avouer qu'ils étaient pour à l'origine.
Ou qui ont fait comme l'actuel président, dire un jour qu'ils étaient contre et le lendemain qu'ils étaient pour.
Ou plutôt le contraire, ils étaient pour au début et après qu'ils étaient contre.
Exactement. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Raphaël. Bye bye.